Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Nous avons terminé notre série dans les Béatitudes. Et donc, nous allons faire juste une courte série dans ces premiers versets de Philippiens, chapitre 2. Alors, en fait, nous allons commencer la lecture avec le chapitre 1, verset 27. Mais je veux que vous imaginiez, pour le moment, que vous faites partie de cette première église à Philippe, d'accord? Et que vous venez de recevoir une lettre, écrite, j'imagine, sur un parchemin, quelque chose comme ça. Et donc, on a rassemblé l'église, on a dit, tiens, il y a une lettre qui est venue de l'apôtre, et nous allons la lire. Ensemble. Alors, ça vient de Paul. Paul est le fondateur de l'Église. Paul est, dans un sens, votre père spirituel. Vous le connaissez bien, vous l'avez vu souffrir. Paul est aussi l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ aux païens. Et donc, vous lisez ces mots. Regardez chapitre 1, verset 27. « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui pour eux est une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous arrêtons là. Lecture de la parole de Dieu. Alors, quel sujet pensez-vous que Paul adresse dans ces versets? Est-ce que ça vous vient tout de suite à l'esprit? Est-ce qu'il est en train d'aborder la question de défendre la foi ou la joie dans la souffrance? Est-ce qu'il parle de la foi ou de la prière qu'est-ce que c'est? Surtout dans ces quatre premiers versets du chapitre 2, relisez si vous avez besoin, avec vos yeux, un peu ces versets. De quoi parle-t-il? Je crois que c'est évident qu'il parle de quoi? Vous l'avez trouvé, il parle de l'unité de l'Église. Donc si vous venez à l'Église et vous entendez le pasteur annoncer un texte, Philippiens 2, 1 à 4, vous attendez donc à ce que le message soit sur quel thème? Ben c'est sûr, si c'est sur ce texte, le message aussi doit être sur le même thème, qui est le thème d'unité. Et en fait, il y a deux sujets jumeaux, on peut dire, dans ce texte. Ils sont tellement liés qu'on pourrait les appeler des frères siamois. Vous savez, c'est des frères qui sont conjoints depuis la naissance. Et ces deux sujets peuvent être exprimés avec deux H. Les deux idées sont d'abord l'harmonie, qui est un synonyme pour l'unité. Il cherche l'harmonie dans l'Église. Et le deuxième H, c'est le mot humilité. Harmonie et humilité. Et selon ces versets et ailleurs dans la Bible, vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. On ne peut pas vraiment avoir l'harmonie sans la présence de l'humilité. Donc, quand nous traitons le sujet de l'unité dans l'Église, l'unité est bien sûr essentielle à la santé de l'Église, même à son existence, nous devons aussi parler de l'humilité. Alors, c'est facile, je vous dis ça depuis le début, hein, c'est facile en écoutant les sermons, semaine après semaine, de créer une dichotomie. Vous savez ce que c'est une dichotomie? C'est une séparation, où les deux choses ne se rencontrent pas. Une dichotomie ou une division entre ce que nous entendons le dimanche matin et puis ce que nous vivons après pendant la semaine. C'est très facile, si vous êtes comme moi, c'est très facile de le faire. Mais je veux vous rappeler que ce que nous sommes en train de lire, ce que nous sommes en train d'étudier, sont les paroles même du Dieu vivant. Si on peut y penser comme ça, ce que je suis en train d'étudier ce matin est la volonté de Dieu pour ma vie. C'est ça, sa volonté. Comme si Jésus était là, parce qu'il est là. Comme si Jésus nous parlait, parce qu'il nous parle à travers sa parole. Comme s'il nous révélait sa volonté et nous disait, voici ma volonté pour vous. Ça devrait nous donner quand même une attention face à ce texte. Alors, je veux commencer en guise d'introduction, et vous allez voir que la plupart de ce message sera en fait une introduction au texte. Vous montrer comment le texte se présente. D'abord, on va voir comment notre texte, qui est les quatre premiers versets du chapitre 2, se présente dans le contexte qui commence dans la grande section du lettre qui commence au chapitre 1, verset 27, qui va jusqu'au chapitre 2, verset 18. C'est une seule section. Et après, je veux vous montrer comment les différentes parties de notre texte se relatent à elles-mêmes. On va un peu décortiquer, diviser les quatre versets pour trouver un schéma. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je veux vous aussi vous montrer un peu la recette pour que vous puissiez bien suivre vous-même. Donc d'abord, comme introduction, mais un point important, c'est la relation de notre texte, chapitre 2, versets 1 à 4, au contexte. Au contexte. Le contexte, c'est Philippiens 1, 27 à 2, 18. Et ce que nous allons voir, c'est que cette partie du texte, les quatre premiers versets du chapitre 2, révèle ce que c'est d'avoir une conduite digne de l'Évangile. En fait, on pourrait donner comme en tête à toute cette section une conduite digne de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est une conduite digne de l'Évangile? Regardons comment cette deuxième grande partie de la lettre commence. Vous pouvez regarder chapitre 1, verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière quoi? Digne de l'Évangile. Donc il va parler d'une conduite digne de l'Évangile. Et pour se conduire d'une manière digne de l'Évangile, il faut, selon les quatre premiers du chapitre 2, travailler à notre unité. Donc unité, nous savons selon le contexte, devient un facteur principal dans une conduite qui est digne de l'Évangile. Alors cette vérité par elle-même devrait être assez pour souligner l'importance d'une vraie unité. Si nous voulons vivre d'une manière digne de l'Évangile, il faut travailler à l'unité. Donc le contexte est important parce qu'il souligne l'importance de notre sujet ainsi que sa nécessité pour que notre conduite en tant qu'Église soit digne de l'Évangile glorieux de Christ. Et je vais vous montrer le rapport de notre texte, chapitre 2, à ce qui vient juste avant. Et je crois que c'est clairement évident de trois manières que vous pouvez trouver dans le texte. Regardez le premier verset du chapitre 2. Il dit, si, c'est quoi le deuxième mot? Si donc, déjà avec ce mot donc, nous devons, en fait, dans l'original, il vient en premier, on pourrait le traduire ainsi, donc, s'il y a. Donc nous voyons que Philippiens 2, 1 à 4 continue l'argumentation de Philippiens 1, 27 à 30. C'est la suite, c'est la continuité. Il dit « donc ». Et quand quelqu'un dit « donc », c'est qu'il a déjà dit quelque chose. Et continue un peu la discussion. L'exhortation qui commence à Philippiens 1, 27, une conduite digne de l'Évangile, va maintenant trouver encore plus d'applications concrètes. Ainsi, le rapport entre ces deux chapitres est évident par l'utilisation par Paul du mot « donc ». Ceci démontre que le même sujet, une conduite digne de l'Évangile, continue. Après, vous allez voir aussi une deuxième raison, c'est que les quatre premiers versets du chapitre 2 continuent ou répètent même l'enseignement de Philippiens 1, 27 à 30. Que l'harmonie ou l'unité est essentielle pour la santé de l'Église chrétienne, ainsi pour ses efforts à évangéliser. Regardez encore le chapitre 1, verset 27, au milieu du verset. Il dit, il faut que vous demeurez ferme dans quoi? Quel est le mot là? Un même esprit, vous voyez ça? Combattant d'une quoi? Même âme. Vous voyez la répétition de ce mot même? Un même esprit, une même âme? Alors regardez chapitre 2, verset 2. Qu'est-ce qu'il dit là? Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Vous voyez l'évidence que le chapitre 2 et ce qui suit est visiblement relié à ce qui commence au chapitre 1, verset 27. Non seulement par l'utilisation du mot « donc », mais par la répétition de ce mot « même ». Il parle encore du fait d'avoir un même esprit, une même âme. Donc, voyons le lien entre ces deux chapitres. Mais un troisième lien, et ce troisième lien est en fait un contraste. Parce que quand vous lisez en chapitre 1, verset 27, c'est l'unité, un même esprit, une même âme, mais c'est face à qui? Où est le problème? Où est le sujet à qui il pense? Regardez le verset 28. 1, 28. Sans vous laisser aucunement effrayer par qui? Les adversaires. Donc, face à de tels adversaires, ils doivent combattre d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Même si ça entraîne des souffrances. Et donc, il va parler, en fait, de la persécution que ça apporte. Donc, chapitre 1, verset 27 à 30, parle de l'unité contre un ennemi commun. On doit être unis contre l'adversaire, les adversaires. Mais chapitre 2 et verset 1 à 4 parle de l'unité, pas face aux adversaires, mais où? Dans l'Église même. D'accord? Donc au lieu de l'unité face au monde, sachez le chapitre 1, c'est l'unité dans l'Église elle-même. Voici le rapport entre le texte. C'est la logique de Paul. Il dit, vous devez être unis face aux adversaires qui vont vous persécuter, mais après, même entre vous aussi, même quand il n'y a pas de persécution, vous devez avoir un même esprit, un même sentiment, une même âme, etc. Donc, le thème est l'unité, mais au lieu de parler de l'adversaire, il parle de l'Église elle-même. Deuxième point, donc, en tant qu'introduction, c'est la relation du texte à lui-même. Quand on lit les quatre premiers versets, est-ce qu'il y a un plan? J'aime bien surtout l'apôtre Paul, il est souvent très, très logique dans la façon qu'il avance dans sa pensée. Comment ces quatre premiers versets vont-ils ensemble? Et ce que nous avons dans les deux premiers versets, c'est vraiment la méthode scientifique avec le « si, alors ». Si ça c'est vrai, alors ça c'est vrai. Notez s'il vous plaît dans le verset 1, l'expression « si ». Ça se répète combien de fois? Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, ça se répète en fait quatre fois. Et ça c'est sa logique. Si, ça c'est vrai, alors, verset 2, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Vous voyez, Paul, en disant quatre fois « si », il faut savoir ceci, il communique pas un doute. Il n'est pas en train de dire « c'est peut-être pas vrai ». C'est en fait le contraire. Il essaye de montrer la nécessité de ce qui suit au verset 2. La construction de ces phrases est telle qu'elles deviennent équivalentes du mot « puisque ». On pourrait presque dire « puisqu'il y a ça, puisqu'il y a ça, puisqu'il y a ça, alors faites ceci ». C'est une phrase conditionnelle, mais les conditions sont supposées d'être vraies par Paul ainsi que par ses lecteurs. Et donc Paul est en fait juste en train de souligner la nécessité de ce qui se trouve au verset 2. Par exemple, c'est un peu comme Satan. Vous vous rappelez, Satan, il vient à Satan et il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. » Est-ce que Satan doute qu'il est le Fils de Dieu? Non. Est-ce que Jésus lui-même doute qu'il est lui-même le Fils de Dieu? Non, c'est évident, c'est clair pour les deux. Mais quand Satan dit « si », il rend nécessaire ce qui suit après, parce que c'est comme si Jésus renierait en fait le fait qu'il soit le Fils de Dieu. Nous faisons parfois ça dans nos relations, même dans la famille. « Si tu m'aimes, papa, fais ceci. » Bon, il nie pas que le papa l'aime, mais ça force maintenant le papa à faire, parce que sinon ça va faire comme s'il ne l'aime pas. Et donc c'est cette phrase conditionnelle, qui des choses qui sont vraies, mais qui rendent le verset 2 beaucoup plus fort, beaucoup plus frappant. Ces choses sont nécessaires, parce que si le verset 2 n'est pas vrai, vous mettez en question tout ce que je viens de dire au verset 1. Donc, nous avons une phrase ici, « si, alors », qui est correcte, hein, c'est pas inventé, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Si ceci est vrai, si cela est vrai, si cela est vrai, si cela est vrai, eh bien, alors ceci aussi doit être vrai. Regardez-le encore, pour que ça rentre bien dans notre esprit. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, bien sûr ces choses sont vraies, mais si elles sont vraies, alors rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Vous voyez le rapport donc entre ces deux versets, si le verset 1 est vrai, alors le verset 2 doit être vrai aussi. Cela rend le verset 1 très important. Ça le fait pour, comme une fondation ou la base de notre unité de l'Église. Et donc, on pourrait avoir comme premier point principal le verset 1. On pourrait dire que c'est les raisons pour l'unité dans l'Église. Ou moi, j'ai choisi, hein, il y a plusieurs mots, moi, j'ai choisi le mot « les motivations ». Pour l'unité. Parce qu'il dit, si c'est vrai, ça devrait vous motiver à avoir de l'unité dans l'Église. Les motivations. Et le verset 2, je crois, nous donne la nature de cette unité. Il nous explique dans le verset 2 ce que cela veut dire quand il parle de l'unité. Vous savez, c'est difficile de trouver même deux personnes qui sont unies sur la définition de l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Mais voici la nature de l'unité selon Paul. C'est que vous ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ça, c'est l'unité. Ça, c'est la nature de l'unité selon la Bible. Le verset 2. Si vous voulez savoir ce que c'est l'unité, c'est le verset 2. Et puis, notez maintenant les versets 3 et 4. Parce que les versets 3 et 4 nous donnent en alternance ce qu'on peut appeler les évidences que l'unité est présente et les évidences qu'elle est absente. Ou on pourrait les appeler les indispensables à l'unité et les menaces à l'unité. Il y a deux choses qui se contrastent, vous allez voir quand on les lit. Ou moi j'ai choisi les éléments néfastes à l'unité qu'on trouve au début du verset 3 et au début du verset 4. et puis les éléments nécessaires à l'unité. J'ai choisi deux N là pour nous aider à les retenir. Mais regardez le verset 3, la première partie. Ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire. Est-ce que vous pensez que ça c'est néfaste ou nécessaire à l'unité? Ça c'est néfaste, n'est-ce pas? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Voici des menaces à l'unité de l'Église. Mais ce qui suit est une nécessité pour protéger l'unité. Regardez-le. Mais que quoi? L'humilité vous fasse, et c'est dans le singulier, regardez les autres, ça c'est dans le pluriel, comme étant quoi? Au-dessus de vous-même. Ça, c'est un élément nécessaire à l'unité. Vous voyez? Verset 3 commence avec un élément néfaste et ça termine avec un élément nécessaire à l'unité. Et on le répète au verset 4. Regardez le verset 4, ça commence par une menace encore. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, parce que si chacun... Bon, je ne me dispute pas, mais moi je vis ma vie. Moi je considère que mes propres intérêts. Ça, en fait, c'est néfaste à l'unité. Donc qu'est-ce qui est nécessaire à l'unité? Regardez la deuxième partie du verset 4. Que chacun donc considère aussi ceux des autres. Vous suivez la logique de ce passage? Hein? Les motivations, la nature, et puis les versets 3 et 4 ensemble, les éléments néfastes ainsi que les éléments nécessaires à cette unité. Alors aujourd'hui, nous devons nous contenter de regarder le premier point principal, les motivations pour l'unité, qui se trouve dans le verset 1, les motivations de l'unité dans l'Église. Alors, si on parlait des motivations, combien de points secondaires pensez-vous que nous devons avoir? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est de compter le nombre de phrases qui commencent avec « si », n'est-ce pas? Et on a trouvé combien? Il y en a 4 dans le verset 1, chapitre 2, verset 1. Et il essaye de nous impressionner de l'importance de cette question. Et donc il emploie ces termes staccato, très courts, sans verbe même, qui commencent toutes avec le même mot. Si, 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 si. Et ce sont des mots en fait qui sont lourds en sens, assez rares dans le Nouveau Testament, mais qui ont beaucoup d'importance, qui posent, si vous voulez, la fondation, la base de notre unité en tant qu'Église. Et donc j'ai choisi le mot motivation parce que, bien qu'il soit des raisons qui rendent l'unité possible, ils deviennent pour nous des motivations pour nous pousser à travailler sur cette unité. Alors, quel que soit le mot que vous préférez, vous devez penser à ces 4 phrases qui commencent avec « si » comme les 4 pieds d'une chaise. Il y a une chaise ici, elle a 4 pieds. Et l'unité, elle s'assoit dessus. On a besoin de tous les 4 pieds. Alors, c'est intéressant comment il commence cette discussion de l'unité. Quand un chef au travail, ou un père à la famille, ou même un responsable de l'Église, quand on voit quelque chose de mal, qui va mal, notre tendance, je crois, est de tout de suite donner une liste d'impératifs. Alors, vous devez faire ça, 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 ça et ça. C'est des impératifs qu'on donne. Et Paul sent évidemment que tout n'est pas comme il faut à Philippe. Quoique, il dit au chapitre 1, verset 5, que chaque fois qu'il prie pour eux, c'est avec joie qu'il prie, mais sa coupe de joie ne déborde pas complètement. Et donc, il leur dit au chapitre 2, verset 2, « Rendez ma joie parfaite ». Ayant cette unité. Donc il peut avoir même dans une église une place pour grandir, pour que la joie soit encore plus parfaite. Mais ce que je veux souligner, c'est que Paul ne répond pas à ce manque, cette déficience de la part de l'église à Philippe en leur donnant tout de suite des ordres. Faites ceci, faites cela. Paul a en fait beaucoup plus de sagesse que nous. Paul commence parce qu'il sait que ce n'est que la grâce, en fait, qui va pouvoir les motiver. Et donc, il fait d'abord appel à les privilèges qu'ils ont en Jésus-Christ. Et donc, avant de regarder les exigences qui commencent au verset 2, il parle d'abord de ces privilèges qu'ils ont grâce à Christ au verset 1. Et après, ces privilèges, ces grâces, c'est ça qui forme la motivation de l'unité. Vous voyez, c'est ça qui va nous motiver à l'unité. C'est pas qu'on nous tape sur la tête, c'est qu'on soit émerveillé par la grâce qui nous est donnée. Donc ces motivations, en fait, sont des grâces qui nous sont données. Notez la première phrase avec « si » du verset 1. « Si donc il y a quelque consolation en Christ ». En fait, le mot « consolation » veut dire « inciter d'autres à une croyance, à une conduite ». L'encouragement. Je vous encourage, si vous avez la place, même au-dessus du mot consolation, écrire le mot encouragement. Dans le second 21, c'est traduit ainsi. S'il y a donc de l'encouragement en Christ. Et donc ça, c'est le premier pied, si vous voulez. C'est l'encouragement reçu en Jésus-Christ. L'image ici n'est pas tellement de la consolation qu'offre une mère à son enfant, mais de l'incitation au courage que donne un général à ses troupes. Il nous encourage. Et nous sommes encouragés, notez cette phrase, en Christ. C'est de la sténographie pour tout ce que cela veut dire d'être chrétien. Nous sommes en Christ. Et en Christ vient un encouragement. Pensez à votre relation en Jésus-Christ et de l'encouragement que ça vous apporte, c'est ce qu'il dit. La première chose, quand vous pensez à l'unité, je dois penser à ma position en Christ, de l'encouragement que ça me donne, que j'ai reçu en Christ, c'est-à-dire le soutien que Jésus-Christ nous a donné en tant que ses disciples pour vivre ensemble en harmonie. Pensez simplement à l'encouragement verbal que Jésus nous a donné. Et là, on trouve beaucoup d'encouragement dans ce domaine dans les évangiles. Jésus nous a-t-il pas exhorté en Jean 13, 34 et 35? Regardez-le. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous voyez, quand il dit, c'est quelque encouragement en Christ, on devrait s'arrêter pour penser à tout ce que Jésus nous a dit de ce sujet. Jean 15, il a dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. N'a-t-il pas prié le jour, la nuit même, avant sa crucifixion? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc Paul dit, on commence là, pensez à l'encouragement que vous avez reçu en Christ, pas seulement verbal, mais aussi par son exemple, parce qu'il a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimer. Il nous encourage aussi en nous laissant un exemple pour que nous puissions suivre dans ses traces. Mais un deuxième pied, et là c'est à vous de méditer, hein, parce que vous ne pourrez pas se passer beaucoup de temps que sur ce premier point, mais un deuxième pied de la chaise, une deuxième motivation, il dit s'il y a quelque soulagement dans l'amour. Là on parle du réconfort de l'amour de Dieu. Le second 21 dit, s'il y a de la consolation dans l'amour. Une autre traduction dit, son amour vous apporte-t-il du réconfort? C'est comme si Paul dit, bien sûr que je comprends que vous trouvez que certaines personnes sont désagréables, qu'elles sont gênantes, peu attirantes, mais avez-vous jamais éprouvé l'amour de Dieu répandu dans vos cœurs? Connaissez-vous le réconfort de l'amour de Dieu qui vient vers vous, pécheurs? Votre propre expérience ne vous a-t-elle pas enseigné que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne peut nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur? N'est-ce pas une fondation, une raison pour l'unité dans l'Église, le réconfort, le soulagement que vient de l'amour de Dieu en Christ pour moi, comme je vous ai aimé? Aimez-vous les uns les autres. Une belle illustration de ceci en 2 Corinthiens 1, 3, où il dit « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent aussi dans l'affliction. » Donc c'est non seulement l'encouragement reçu en Christ, mais le réconfort de l'amour de Dieu, c'est-à-dire j'aime avec l'amour que Dieu me donne. Je ne crée pas ces choses, mais je médite sur l'amour que Dieu me donne. Cela me pousse à aimer. Et troisièmement, il dit s'il y a quelque communion d'esprit. La communion avec, je crois que ça parle ici de l'Esprit de Dieu. Et là, encore un autre rappel de notre expérience de la grâce de Dieu. La communion dans l'Esprit. C'est pas tout simplement une communion humaine ici. C'est une communion créée par Dieu. C'est une communion qui est verticale, c'est-à-dire avec lui, puis horizontale. Une communion produite par lui, mais appréciée avec d'autres croyants. Et on peut pas prétendre avoir l'un seul l'autre. L'un sans avoir l'autre. Vous pouvez pas dire je suis en communion avec Dieu, et pourtant ne pas avoir la communion avec vos frères et sœurs en Christ. La Bible est très claire sur ce point. 1 Jean 6 et 7 nous dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. » Regardez les trois liens entre la communion avec Dieu et la communion avec d'autres. Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, eh bien, nous avons la communion les uns avec les autres. Donc, s'il y a un problème ici, c'est qu'il y a un problème ici. C'est clair dans la Bible. En effet, la Bible dit, celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Mais celui qui aime son frère reste dans la lumière, et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. Je trouve qu'il n'y a pas de fondation plus solide ou de motivation plus ferme pour l'unité de l'Église que de faire appel à la communion que chaque chrétien apprécie avec l'Esprit de Dieu, ou celle qui vient de l'Esprit de Dieu. Parce que, rappelez-vous, il est le Saint-Esprit, mais il a communion quand même avec nous, qui ne sommes pas saints en nous-mêmes. Il est allé loin pour avoir la communion avec vous. Et puis il dit quatrièmement, j'avance, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Et là, je crois qu'il parle de notre expérience. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot expérience. Connaissez-vous l'expérience de la compassion et de la miséricorde de Dieu? Si vous traitez les uns les autres comme si vous ne savez même pas ce que c'est la compassion. Vous agissez envers les autres comme si vous n'avez jamais connu vous-même ce que c'est de recevoir la miséricorde de Dieu. Ce mot traduit compassion est le mot pour les entrailles. Hein? C'était une métaphore pour la tendresse ou l'affection. Aujourd'hui, on parle du cœur, mais à l'époque, on parlait des entrailles. Vous connaissez ça, vous connaissez le cœur de Dieu, vous connaissez la miséricorde, les entrailles de Dieu envers vous. Et ce deuxième mot parle d'une démonstration de compassion pour le malheur d'un autre. On trouve ce mot en Romains 12, 1 où il dit « Je vous exhorte, mon frère, par les compassions de Dieu ». 2 Corinthiens 1, 3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricorde est le Dieu de toute consolation. » Jacques 5, 11 indique que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. C'est donc clair à travers ces versets que Paul est en train de parler du fait d'éprouver les miséricordes de Dieu. Encore une démonstration de sa grâce, n'est-ce pas? Donc pensez à ce que vous méritez ce matin. Un enfer éternel. Et pourtant, Dieu vous offre un ciel éternel. Vous méritez d'être banni pour toujours de sa présence. Pourtant, il vous invite à venir librement devant son trône. Vous méritez d'apparaître devant un trône de jugement, de condamnation devant le juste juge. Mais il a dit, venez avec audace devant le trône de quoi ? Trône de la grâce. Pas tout le monde a éprouvé cette grâce. Et il n'y a certainement aucune raison en vous qui la mérite. Et pourtant, connaissez-vous ? Avez-vous connu l'expérience de la compassion et la miséricorde de Dieu ? Vous qui étiez morts par vos enfances et dans vos péchés, qui étiez autrefois éloignés dans les ténèbres, mais rapprochés par la grâce et l'amour de Dieu. Savez-vous, posez-vous la question maintenant, mes amis, est-ce que je connais un peu de ce que c'est l'expérience de la compassion et la miséricorde de Dieu? Ce serait bien, hein, au milieu d'une dispute avec quelqu'un. Vous dites, vous arrêtez et vous dites, qu'est-ce que j'ai connu comme compassion et comme miséricorde? On disait quelque chose avec ma femme cette semaine et elle disait, vous savez, l'écart entre vos attentes pour votre époux ou votre épouse, vos attentes sont ici et ce qu'il produit, l'écart, on attend ici, il produit ici, on est déçu. Il dit, mais l'écart entre vos attentes et ce que vous recevez de la part de l'autre n'est rien comparé à l'écart entre ce que Dieu attend de nous et ce qu'il reçoit de nous. Il dit, soyez parfaits comme Dieu est parfait. Si nous sommes chrétiens, nous avons reçu beaucoup d'encouragement en Christ, nous avons reçu beaucoup d'amour, beaucoup de communion. Nous avons connu l'expérience de la compassion et de la miséricorde de Dieu. Maintenant, si ces choses sont en vous, qu'ils vous motivent, qu'ils vous motivent, alors, il dit verset 2, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même, etc. » Maintenant que nous avons été rappelés de notre propre expérience de la grâce de Dieu envers nous, maintenant que nous avons vu les motivations pour une telle unité, la fondation pour cette unité, eh bien, maintenant viennent les impératifs. Faites ceci, faites cela. Nous sommes prêts. Si donc, je vais lire comme ceci maintenant le verset 1. Si donc nous avons connu quelque consolation en Christ, si nous avons connu quelque soulagement dans l'amour, si nous avons connu quelque communion d'esprit, si nous avons connu quelque compassion et quelque miséricorde, si nous avons éprouvé une telle grâce, alors comment osons-nous faire autrement que d'avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée et de faire rien et de ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité à cause de ces choses nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Si l'expérience de la grâce de Dieu est une réalité, alors de même doit être l'exercice de l'unité. Ne pas avoir l'un est de remettre en question l'expérience de la première. Et vous savez, je termine avec cette application. Trop souvent, quand nous parlons des problèmes, les réalités de Philippiens 2, verset 1 sont complètement absentes. C'est-à-dire, on va parler de ce problème et on commence avec le problème et ce que l'autre a fait. Ce que l'autre a fait. Mais en fait, il faut argumenter de la même façon que les Saint-Esprit ici. Il ne dit pas, puisqu'il a fait ceci, puisqu'il a fait cela, puisqu'il a fait cette troisième chose, et puisqu'il a fait cette quatrième chose, alors maintenant je réponds comme ceci. Ça, c'est notre façon de penser, n'est-ce pas? J'ai dépassé la première fois, la deuxième fois, quatre fois, c'est trop. Le Saint-Esprit nous pousse à raisonner ainsi. Tout cela est peut-être vrai. Mais puisque j'ai connu un encouragement en Christ, puisque j'ai connu un réconfort dans l'amour de Dieu, puisque j'ai connu une communion avec l'Esprit, puisque moi-même j'ai connu une expérience de sa grâce et de sa compassion, alors maintenant, la logique qui suit sera différente, n'est-ce pas? Il faut bien méditer sur Philippiens chapitre 2, verset 1. Voici les motivations pour une vraie communion et unité dans l'esprit. Mais je vous promets que le diable veut que tout de suite qu'on part, la semence soit enlevée. Que pendant toute cette semaine, Philippiens 2:1 ne nous vienne même pas à l'esprit. Pour que la prochaine fois, il y ait une dispute, il y a un problème avec quelqu'un d'autre. On ne raisonne pas de cette façon. Mais comme nous avons toujours raisonné, c'est à nous de veiller sur nos âmes. Pour que nos logiques changent, nous suivions la logique que Dieu nous donne dans sa parole. Prions le Seigneur. Ô Dieu, nous sommes des peuples, des personnes qui ont reçu ta grâce et qui la reçoivent encore aujourd'hui. Pardonne-nous de ne pas vouloir démontrer la grâce envers les autres. Que ces motivations, vraiment nous touchent au fond du cœur et nous motivent à raisonner différemment, à parler différemment, à vivre différemment et à chercher l'unité pour que nous puissions vivre d'une manière digne de l'évangile de Christ. Amen. Amen.